Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec Toyota. Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota à Ducos et à Koné.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dans lesquels nous allons nous intéresser cette semaine à la filière recyclage. Comment est-elle structurée aujourd'hui? Qui en sont les acteurs? Quels sont ses défis ou ses perspectives de développement? Nous allons en parler en compagnie de nos trois invités, Bernard Crenier qui est le PDG de Trécodec, Gaël Pierre qui est le co-gérant de la CSP et Emmanuel Récamier, le directeur du Signe, le syndicat intercommunal du Grand Nouméa. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Très rapidement, peut-être pour savoir bien qui parle et de quoi, présentez-nous rapidement chacun vos structures ou vos organisations. On commence avec vous, Bernard Crenier, PDG de Trécodec, que les Calédoniens connaissent, mais on ne sait pas forcément aujourd'hui tout ce que fait Trécodec.
Oui, oui, ça reste quand même une boîte noire. Alors Trécodec, c'est une société, je précise bien, une société à but non lucratif, agréée par les pouvoirs publics, qui prend en charge les déchets des producteurs. Ce qu'on appelle les producteurs, ce sont les metteurs sur le marché, des filières réglementées, huiles, piles, batteries, pneus, déchets d'équipements électriques et électroniques, maintenant les emballages, reçoit de la part des producteurs une contribution et organise le système et finance le système de la collecte et du traitement et la traçabilité par la suite.
Et Trécodec existe depuis, vous l'avez dit, mais
2008, premier exercice en 2009, donc voilà. 17 ans.
Gaël Pierre, vous êtes co-gérant de la CSP.
Oui, donc
tout le monde connaît aussi.
J'espère. bonjour également. Donc la Calédonienne de Services Publics est une entreprise qui est privée, qui est détenue aujourd'hui par deux actionnaires 100% calédoniens. Donc depuis 30 ans, et nous avons une délégation de services publics qui court jusqu'en 2037, qui était de 30 ans, avec le syndicat justement du Grand Nouméa, afin de traiter tout ce qui est les ordures ménagères, les déchets non dangereux du Grand Nouméa.
Et puis avec nous également Emmanuel Récamier, qui est le directeur du SIN, le syndicat intercommunal du Grand Nouméa.
Donc nous, le syndicat intercommunal du Grand Nouméa, ben, on est un établissement public pour le coup qui regroupe les quatre communes. Et les quatre communes nous ont chargé de différentes missions, dont la mission de traiter les déchets qui sont collectés par les services publics des quatre communes. Et pour accomplir cette mission, effectivement, nous avons un contrat de 30 ans avec la CSP.
Voilà, alors on s'aperçoit, et ça va être ma première question avant d'entrer dans le vif du sujet pour voir qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, quels sont les défis et quels sont les développements futurs, mais on s'aperçoit que cette filière recyclage, on peut l'appeler comme ça, est quand même en train de se structurer et qu'elle agrège en quelque sorte des organismes privés et publics. Il y a nécessité des deux, c'est vraiment important pour faire en sorte que cette filière fonctionne le mieux possible.
Oui,
Bernard Crenier.
Oui, ça reste... Alors, dans l'imaginaire, tout le monde se dit déchets égale pouvoir public. Mais finalement, déchets est produit par le privé. Que ce soit un ménage, que ce soit une entreprise, que ce soit une administration, le déchet a un propriétaire. Et le propriétaire doit s'en occuper. Alors pendant longtemps, on s'est dit, le public va s'en occuper. Et puis avec les années qui passent, on s'aperçoit que on veut augmenter le taux de recyclabilité, on veut mieux gérer les déchets, ça va coûter plus cher. Et à ce moment-là, finalement, c'est un retour aux sources. L'administration dit c'est plus moi qui vais m'en occuper, ce sont ceux qui gagnent de l'argent avant tous ces produits qui vont s'en occuper, d'où la création de la REP. Et puis on voit aujourd'hui le poids des REP, la responsabilité élargie des producteurs en métropole, où il y a une trentaine d'éco-organismes, on est en milliards d'euros, et se pose la question de la gouvernance de ces milliards d'euros. L'État se pose la question de la gouvernance des déchets, des éco-organismes, parce que ça fait beaucoup beaucoup d'argent, et puis ça oriente une industrie. Une industrie du déchet autour.
On n'en est pas encore là, Emmanuel Récamier, on n'en est pas encore à se poser ces questions-là en Nouvelle-Calédonie.
Alors les milliards d'euros, non. mais c'est vrai que c'est tout à fait vrai que ça réunit à la fois le public et le privé. D'ailleurs, les déchets collectés par les services publics, c'est qu'une partie des déchets. La CSP, avec les infrastructures publiques, gère chaque année 130 000 tonnes de déchets. Sur ces 130 000 tonnes, il n'y a que 70 000 tonnes qui viennent des services vraiment publics. Après, c'est vrai que les déchets, c'est quelque chose de particulier. Personne n'a vraiment envie de les gérer. C'est pour pratiquement tous les déchets, pas quelque chose qui rapporte de l'argent. Malheureusement, la valeur intrinsèque du déchet, surtout en Calédonie, où c'est pas facile d'arriver, elle est faible. Donc, pour financer un traitement correct qui ne va pas nuire à l'environnement, et puis à la base, quand même, il y a la salubrité publique, donc c'est pour ça que les pouvoirs publics s'en sont chargés. Ça veut dire que les déchets, ça coûte. Et C'est pas de l'argent que spontanément les privés ont forcément envie de dépenser. Donc c'est pour ça aussi que les pouvoirs publics s'en sont saisis. Et il faut financer tout ce traitement des déchets. Donc il y a les modes de financement classiques qui est le paiement de sa facture de redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Il peut y avoir des taxes aussi, hein, ça existe. 80% des services en France, c'est financé par des taxes et non par une redevance. Et puis des nouveaux moyens, celui de la responsabilité élargie des producteurs, où on fait payer directement le traitement des déchets à ceux qui achètent le produit initial. Ce qui est très intéressant aussi, parce que ça a aussi un côté incitatif.
Alors, le déchet, ça coûte, mais ça peut rapporter lorsqu'on met en place des filières recyclage. C'est aussi le but, c'est-à-dire que ça a une vertu forcément environnementale, j'allais dire, pour faire que le traitement des déchets se passe dans de bonnes conditions. Mais aussi, si on lance des filières de recyclage, ça peut-être générer à nouveau de l'argent. On va y revenir dans un instant. Mais je voudrais revenir sur un chiffre que vous avez donné, 130 000 tonnes, hein, c'est ça, de déchets, la CSP par an. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, Gaël Pierre, voilà, d'où viennent ces déchets? Quels sont les déchets principaux? Comment ils sont gérés, traités? On sait qu'il y a des déchetteries, etc. Comment ça marche tout ça?
Alors oui, effectivement, pour schématiser, on va dire qu'on a 50% de déchets qui viennent du secteur public, et les déchets qui sont produits, ce qu'on appelle les DNDAE, donc ce sont des déchets qui sont non dangereux et issus des activités économiques. Donc ça va être des emballages, du bois, palettes, des ordures qui viennent aussi, mais qui viennent de la grande distribution, qui viennent de différents secteurs économiques et qui vont nous déléguer le traitement. Alors, dans ce contexte-là, c'est un service qu'on va dire qui est non obligatoire, qui ne fait pas partie de notre délégation de services publics. Ils pourraient l'éliminer par eux-mêmes. Bon, il n'y a pas trop le choix dans le Grand Nouméa que de venir chez nous, mais grosso modo, on va être sur cet tonnage-là. Alors, sur cet tonnage, même le secteur public, c'est assez différent. Il y a bien évidemment le gros volume qui sont le bac, hein, le bac gris qu'on a tous chez nous qui est collecté en porte-à-porte. Il y a les volumes qui viennent en déchetterie. Le Grand Nouméa a la chance d'avoir six déchetteries sur lesquelles on va trier, mais aussi récupérer certains déchets qui ne peuvent pas aller dans les ordures, comme les encombrants. On va récupérer le déchet vert, qui aujourd'hui est une filière de valorisation dont on ne parle pas beaucoup, mais qui marche excessivement bien. Et puis, bien heureusement, des déchets qui sont triés et valorisés. Donc aujourd'hui, une des complications que l'on peut avoir, c'est effectivement le coût, puisque les communes, dans les années 2000, ont décidé de... On était dans des dépotoirs encore en Nouvelle-Calédonie, hein, il n'y avait ni incinération, ni enfouissement avec des normes, hein, donc le déchet... Et malheureusement, on pourrait dire que dans certaines communes de la Nouvelle-Calédonie, c'est toujours comme ça, malheureusement. Mais nous avons la chance d'avoir une installation qui est parfaitement exemplaire en termes de normes, et il faut la préserver. Donc, passer l'étape suivante, c'est-à-dire rentrer dans une vraie filière de tri, recyclage matière, c'est tout à fait possible. Ça peut même être, comme vous le dites, rentable financièrement, mais ça nécessite des gros investissements. Et c'est là où, pour nous, acteurs privés, il est très intéressant d'avoir un organisme comme Trecodec, puisque, et il y a plusieurs filières, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, que nous avons réussi à mettre en place, nous traitons privé-privé. Mmh. Et ça facilite beaucoup plus les relations qu'en fait avec des communes qui aujourd'hui n'ont clairement pas de moyens à investir dans ces filières-là.
Alors il y a les déchets ménagers, j'allais dire, il y a les déchets verts, il y a dans les déchets ménagers quelques déchets plus dangereux. On sait que Trecodec a été mis en place notamment au début pour la récupération des piles. Est-ce que ça reste toujours un problème, ces déchets dangereux? Est-ce que vous pensez qu'il y a une éducation qui se fait au niveau des personnes, ou est-ce qu'on trouve encore trop de piles dans les poubelles de déchets ménagers, Bernard Crenier? C'est l'occasion de faire passer des messages.
Oui, bon, les piles, oui, mais c'est pas
des batteries, enfin,
ouais, autres, c'est pas le principal cheval de bataille, parce que les huiles sont beaucoup plus marquantes, par exemple. Mais pour vous donner un chiffre, on est à 165 000 tonnes environ de déchets collectés depuis notre existence. 2025, c'est 90% du gisement de 2023 à périmètre équivalent, c'est-à-dire en enlevant les emballages, qui ne sont pas des déchets dangereux. Donc c'est significatif, et c'est aussi, je dirais, salutaire. Parce que malgré que les émeutes soient passées par là, évidemment, l'économie et la conscience des Calédoniens, elle est bien là, en ce qui concerne les filières réglementées. Après, je veux aussi dire un mot sur la rentabilité des déchets. Il faut être prudent, parce qu'on est une île, on est au milieu de l'océan Pacifique. On n'a pas forcément les seuils critiques pour atteindre l'équilibre. Donc il y a forcément une espèce de forme de subvention de filière locale pour avoir de la valeur ajoutée. Et quand je parle de subvention, ce n'est pas de subvention publique, hein, c'est bien les subventions de l'éco-organisme à destination des acteurs locaux du déchet, parce que l'éco-organisme n'a pas le droit de faire, c'est important de le rappeler. Non, nous, on n'a pas le droit de faire, on doit faire appel à des sous-traitants. Mais pour que ces sous-traitants puissent investir dans des broyeurs, parce que c'est ce qui s'est fait ces trois dernières années, il faut que l'éco-organisme surpaye un petit peu la prestation pour créer une industrie, pour diminuer notre dépendance de l'extérieur. Parce que quand il y a eu la crise Covid, qu'on a vu les taux de fret doubler, ben on était bien content de pouvoir traiter. Ben là, on voit en l'occurrence, on va traiter le verre localement, on traite les détroits œufs localement, etc.
Alors justement, qu'est-ce qui aujourd'hui est traitable, si je peux m'exprimer ainsi, en Nouvelle-Calédonie, et qu'est-ce qui n'est pas traitable en Calédonie? Qu'est-ce qui doit forcément quitter le territoire? Qui veut répondre à ça, Gaël-Pierre?
On peut traiter. Alors j'aurais la prétention de dire qu'on pourrait tout traiter. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est en insularité qu'on ne peut pas tout traiter.
Si on s'organise et si on a de l'argent, si j'ai bien compris. Hein.
Les filières le montrent.
Il y a quand même une question de taille critique, de gisement. On sait que le plastique, il y a eu des expériences. Oui. Je ne dis pas que c'est complètement impossible, mais c'est quand même très compliqué de traiter les quantités de plastique qu'on produit aujourd'hui.
À part la taille critique, techniquement, on pourrait tout traiter. C'est ce que vous essayez de dire.
Bien sûr. Hein, mais effectivement, on a des tailles critiques. On vient de parler des huiles, sur les huiles usagées. Donc, on parle des huiles moteurs. Aujourd'hui, nous travaillons activement sur ce sujet-là, puisque ça coûte très, très cher, c'est exporté. Hein. Il n'y a aucune solution. Il y a des solutions sur lesquelles on pourrait faire du raffinage et traiter ces huiles pour les transformer en gasoil qui serait utilisable. Mais effectivement, c'est une raffinerie. Hein, donc, on passe par un process industriel qui est assez coûteux. Donc, on est souvent sur des chiffres où on dépasse les centaines de millions, voire on attaque les milliards. On peut les faire, ça coûtera moins cher que l'export.
Hein, à terme.
Oui. Bah, oui, une fois qu'on aura démarré. Mais il faut qu'on ait la certitude d'avoir les gisements. Mmh. C'est une des problématiques aujourd'hui. C'est évaluation des gisements. Alors Tricodec a une grande utilité, puisque eux évaluent assez précisément les gisements par les producteurs ou les importateurs, mais c'est très important d'avoir une certaine volume et de traiter. Donc aujourd'hui, on est, on va quand même le dire, assez en retard en Nouvelle-Calédonie sur la valorisation des déchets.
Mmh. Alors qu'est-ce qui marche aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie sur la valorisation des déchets? Quels sont les exemples de réussite qui existent? Et puis on va aussi parler des exemples, non pas d'échecs, mais en tout cas de déchets dont on ne sait pas quoi faire et parce que rien ne s'organise autour pour pouvoir les traiter, Bernard Crenier.
Alors je vais simplifier les choses, oui. Pas répondre directement à la question pour l'instant.
Dommage.
Il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est en collecte. Ça, collecter, on sait faire, on a du transport, etc. C'est relativement simple à faire. On remplit des conteneurs, on exporte. Ça, c'était le premier niveau, c'était il y a 17 ans. Le deuxième niveau, c'est en collecte et on fait un premier traitement local pour essayer d'extraire de la matière première secondaire. Du métal, on va raffiner des huiles, etc. Et le troisième niveau, c'est que ces matières premières secondaires, on les retransforme localement pour en refaire des produits. Donc cette étape-là, on n'y est pas du tout. Clairement, on n'y est pas du tout. Il y a encore du chemin à faire. Même si je vois Gaël Daudeliné, bon, c'est vrai que pour le verre...
Le verre est un exemple.
Le verre est un exemple.
Le verre de bouteille est un exemple.
Voilà. Donc il y a au moins un exemple.
Oui. Pour ensuite, le déchet vert est un déchet. Alors, il n'est pas réglementé, hein, il ne rentre pas dans le cadre des prérogatives de Tricodec, mais le déchet vert, aujourd'hui, en collaboration étroite avec le SIGEN, on arrive aujourd'hui à valoriser une partie du déchet vert. Pas à 100% du gisement, mais on arrive et on pourrait, là, complètement le traiter en entier.
Mais c'est un exemple...
C'est
un exemple intéressant, le déchet vert, de la problématique. Est-ce qu'on peut valoriser 100% des déchets verts en Nouvelle-Calédonie? Oui, bien sûr. Le seul souci aujourd'hui, qui, j'espère, on arrivera à régler, mais c'est le prix. C'est que ça coûte plus cher que d'enfouir simplement dans un centre d'enfouissement. Donc, il faut trouver les ressources qui permettent de le faire. C'est le cas pour les déchets verts, c'est le cas pour les autres déchets, finalement. Et donc... Effectivement, c'est vertueux de ne pas enfouir des déchets non dangereux. Là, on parle des déchets non dangereux. Les déchets dangereux, de toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut pas partir du principe qu'on va les mettre dans un centre d'enfouissement qui n'est pas fait pour. Donc, ça veut dire que...
Et puis, la réglementation est stricte là-dessus.
De toute façon, il faut qu'on mette les moyens nécessaires pour éviter de les enfouir. Donc, faire autant de traitements que possible sur place, ce que disait Bernard, oui, c'est l'objectif. Et puis, ça développe l'économie locale. Après, est-ce qu'on pourra, avec le nombre qu'on est, avoir réutilisé tous ces déchets localement et le faire d'une manière rentable? C'est pas sûr. Donc, ça veut dire un financement à trouver. Alors là, il y a plein de formes de financement qui peuvent exister, mais sachant que ce sera pas forcément le producteur de déchets qui va être très motivé pour spontanément payer cette somme-là, donc il faut trouver des dispositifs qui existent, comme la REP.
Alors, Bernard Crenier.
90%, justement, 90% de Trecodec a fait 9 milliards de chiffre d'affaires sur les 17 derniers exercices. 90% de ces 9 milliards ont été réinjectés dans l'économie locale. Pour la collecte, le traitement des déchets, et tous les salaires et tout ce qui va bien avec. Donc, et ça ne pèse aujourd'hui, les coparticipations ramenées à partir d'habitants, de 3800 francs par an.
Par habitant.
Donc ça veut dire qu'on a des marges de progression qui sont intéressantes, mais ça veut dire aussi que même si les producteurs ne vont pas le faire spontanément, surtout dans notre contexte depuis 2024, mais ce contexte remonte à 2018, depuis les premiers référendums, il faut dire les choses, c'est ça. Puis depuis 2018, on est quand même en décroissance. Alors tout le monde freine parce que tout le monde a un peu peur. Mais le déchet, quand on le glisse sous le tapis, un mot ou un autre, il ressort.
Il ressort, oui. Donc il faut arriver à s'en débarrasser ou alors à le transformer, c'est bien ça.
C'est ça.
En vous entendant les uns et les autres, on a quand même l'impression que si on veut que les choses avancent, si on veut qu'il y ait des filières de recyclage ou de retraitement ou de reconditionnement qui se mettent en place, c'est vraiment une question d'argent aujourd'hui. C'est pas qu'une question de maillage entre des acteurs qui participent au traitement des déchets à son recyclage, c'est qu'une question de moyens et qu'une question de finances.
Je dirais non, aujourd'hui. Alors déjà, ce que disait Bernard est très important, et ça, ce sont les communes en grande partie qui en ont la responsabilité. La collecte est très bien organisée. Nous avons une collecte
qui est
parfaite.
Qui parle,
je ne suis pas collecteur, ou peu, avec les déchetteries, mais notre réseau de déchetteries est tout à fait correct. La collecte en porte à porte. Alors, on est en retard sur le bac jaune, clairement, puisqu'il n'y a que deux communes du Grand Nouméa qui ont développé le bac jaune, même si la troisième, qui est la principale et que je ne citerai pas, à tout pour le mettre en place, puisque même les bacs, des dizaines de milliers de bacs sont arrivés depuis 2 ans. Le marché est acté, c'est juste appuyer sur le go d'envoyer les camions de collecte. Les camions de collecte sont là, tout est là. C'est juste une volonté, clairement, d'une mairie qui a décidé finalement de faire un rétropédalage et ne pas y aller. C'est bien dommage. On serait sur des tonnages de au moins 1000 tonnes de déchets qu'on pourrait trier. Ce sont nos bouteilles plastiques, nos canettes, nos cartons, mais si on prend des chiffres métropolitains en pourcentage par rapport, on arriverait facilement à 3-4 000 tonnes de déchets récupérés en plus, et qu'on pourrait très facilement, on a les outils pour les trier en plus,
les valoriser.
Alors peut-être effectivement finir par les exporter, mais au moins ce qu'on exporte est trié, et on a une matière qui a de la valeur. Aujourd'hui, quand vous revendez des canettes aluminium ou du papier carton, ça a une valeur en export. C'est pas on s'en débarrasse. C'est ça une valeur. Donc on peut le faire, on peut le développer. Les outils industriels existent. Il faut effectivement de l'argent.
Emmanuel Récamier.
Que la valeur à l'export, ne couvre pas tous les coûts. Il ne faut pas que les gens imaginent que... Parce que malheureusement, c'est souvent le cas. Ils s'imaginent que dans le monde du déchet, on se fait beaucoup d'argent. Non, on ne se fait pas beaucoup
d'argent.
Parce
que d'autres pays achèteraient des déchets qu'on enverrait par bateau et ça rapporterait de l'argent à la Calédonie. Ça ne marche pas comme ça.
Non, ça ne marche pas non plus. Là, il va falloir les payer.
Ça payera le bateau. En gros, le fret maritime. Le gros problème est le fret maritime aujourd'hui.
Emmanuel Récamier.
Oui, ça je confirme. Malheureusement, il n'y a aucun déchet. Même l'aluminium qui a une valeur, une fois qu'il est trié, mis en lingot, qui est réel, ne couvre pas les frais de collecte de manière séparée de l'aluminium. Donc c'est pas, enfin ça et ça, ce sera extrêmement compliqué d'arriver à quelque chose de rentable et que les gens se précipitent pour avoir les déchets. Donc il faut qu'il y ait une organisation avec un cadre public, hein, parce que le cadre est forcément contraignant. À partir du moment où il n'y a pas d'argent à gagner pour les producteurs de déchets initiaux, qui sont nous tous, hein, c'est les particuliers et les entreprises, ça veut dire que si on veut le faire, il faut que ce soit dans un cadre qui nous y incite et qui ait des financements derrière. Et c'est vrai que les financements aujourd'hui, les particuliers, parce qu'au bout du compte, qui paiera, ce seront les particuliers et les entreprises. Donc des personnes qui aujourd'hui n'ont pas des moyens qui se sont développés ces dernières années. Donc depuis 10 ans, chaque année, la part de le budget de gestion des déchets qu'on consacre à cette partie de valorisation augmente. Là, je vois sur la partie traitement du SIGN, sur les 900 millions annuels que ça coûte le traitement des déchets, il y en a presque 400 millions qui sont concernés par la valorisation. Donc c'est qui ne concerne que 30% du tonnage. Et est-ce qu'il reste des déchets à valoriser dans ce qui est enfoui aujourd'hui ? Oui, il en reste encore beaucoup. Donc on pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est une volonté d'investir une partie de nos finances à l'échelle globale dans ce secteur-là. Et c'est intéressant si on développe des entreprises locales. Si c'est uniquement pour exporter tourner des industries à l'extérieur, c'est évidemment moins valable.
Bernard Cronier, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, simplement que si vous exportez sur le déchet dangereux, déjà, il y a une convention qu'on appelle la convention de Bâle pour l'export. Ça coûte de l'argent. Vous allez en Australie, la licence c'est 17 000 dollars par an, par exemple. Si vous voulez exporter du déchet, j'ai vu que je crois c'est la Suède qui importe du déchet d'autres pays européens parce qu'ils ont basé leur système sur l'incinération. Donc ils produisent pas assez de déchets pour leurs incinérateurs. Mais aujourd'hui, le modèle autour de nous, c'est beaucoup l'enfouissement. La Nouvelle-Zélande.
Malheureusement, il faut qu'on sorte de ce modèle. Oui, de toute façon, il faudra s'en sortir, ne serait-ce que parce que notre centre d'enfouissement, qui est à Païta, a une durée de vie limitée. Donc on a passé la mi-vie en termes de capacité d'absorption et qu'il faudra, d'ici une dizaine d'années, envisager une suite.
C'est quoi ? C'est un autre site d'enfouissement ou c'est un incinérateur peut passer à des technologies plus évoluées.
Si on arrivait
pour l'instant, on sait qu'il y a les fours de la SLN qui de temps en temps font brûler des choses, mais pas en provenance de chez vous.
On dit l'incinération pure, ça n'existe plus. Bon, bien heureusement, parce que ça pollue énormément et puis ça produit pas tant d'énergie que ça. Non, il y a des solutions. Aujourd'hui, vous avez des territoires de métropole ou d'ailleurs des territoires insulaires, hein, puisque la Réunion est un exemple à ce niveau-là, qui ont décidé de partir sur des autres modes et qui font du tri très très poussé, et là on parle du tri de l'ordure ménagère, hein, de l'encombrant d'absolument tout. Il y a une unité qui s'appelle par exemple Trifil, hein, qui est en Haute-Loire. Ils étaient il y a 5 ans à 85% d'enfouissement, 15% seulement de valorisation avec du bac jaune. Ils sont aujourd'hui opérationnels depuis 2 ans, ils n'enfouissent plus que 15%. Ils ont complètement inversé, 85% est valorisé. Alors, il y a une valorisation énergétique qui existe, hein, on en parlait, et c'est là où il y aurait une complémentarité qui peut exister, c'est-à-dire qu'une partie de ce déchet n'est pas incinéré, c'est-à-dire qu'il est brûlé, mais on va trier, on va extraire ce qui est valorisable, recyclable, comme les aluminiums, effectivement, les plastiques, papier, carton, et après, on a une espèce de mix de déchets, hein, les textiles, les choses comme ça, qui vont, eux, être transformés en combustible, de manière à produire une énergie, et là, on tombe sur des choses qui sont assez compliquées en Calédonie, puisque, par exemple, sur les énergies renouvelables, vous avez un tarif qui est subventionné, soutenu en métropole de l'ordre de 24 francs. Aujourd'hui, on n'a pas ça en Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on avait le public, et là je ne parle pas des communes, hein, mais qui aidait sur le produit fini, on a un équilibre qui serait beaucoup plus soutenable pour les communes, puisque ce que l'on va extraire de nos déchets, ce que l'on va produire, parce que quand on parle de valoriser, c'est faire quelque chose. Recycler, c'est refabriquer une matière première. Là, on va refabriquer une matière première qui est un combustible, qui a une forte valeur et elle est 100% locale. Et on peut alimenter énormément de foyers avec ça et faire des économies. Mais il faut cette aide et ce tarif garanti. Voilà. On arrivera à cet équilibre. Et là, on commence à mettre un millefeuille d'intervenants qui sont très compliqué à mobiliser en même temps sur un même projet.
Voilà, donc on peut en parler d'une filière qui est toujours un peu en construction et, en, et j'allais dire en recherche de cohérence. Est-ce que le terme est juste, Emmanuel Récamier, je vois sourire.
Bon, oui, ça c'est sûr que c'est un des enjeux de la gestion des déchets. C'est vrai que ben il y a pas mal d'acteurs publics, hein, rien que sur l'agglomération de Nouméa, on est 5 services de gestion des déchets. Ça facilite pas toujours la prise de décision, mais après c'est quand même des acteurs qui travaillent bien ensemble. Mais il faut anticiper longtemps avant ce type de décision. Et c'est vrai que le centre d'enfouissement, il a encore 10 ou 15 ans de durée de vie.
Mais c'est maintenant qu'il faut penser à la suite.
Pas,
donc
c'est pas tant que ça pour un tel projet. Et qui, surtout qu'on pourra imaginer plein d'autres choses, effectivement, que juste enfouir les déchets.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de cette filière déchets recyclage. Un mot pour conclure, Bernard Crenier, parce que c'est une journée un peu particulière pour Trécodec quand même aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de deux choses. Le lancement officiel de la filière emballage. Alors, je rappelle que la filière emballage, c'était la première filière qui était prévue il y a 17 ans.
Bon, c'est pas grave. On a mis 17 ans à se mettre en place.
Voilà, on a fait d'autres choses. Et puis la deuxième chose, c'est le lancement du nouveau site internet de Trécodec qui sera beaucoup plus accessible, beaucoup plus pédagogue, etc. Et notamment, je fais appel à tout ce qui est scolaire pour y aller, participer au concours de collecte de piles. N'hésitez pas, on travaille avec le CIE, le Centre d'initiation à l'environnement, pour des interventions en milieu scolaire. N'hésitez pas, la sensibilisation du plus jeune est la chose la plus importante, je crois, aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Merci. Comme chaque semaine, ils seront bien sûr disponibles en réécoute audio et vidéo sur notre site internet. Dans quelques instants, je vous souhaite une belle après-midi.
C'était les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec Toyota. Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota, à Ducos et à Koney. Nouveau design, nouvelle couleur, venez essayer le nouveau Toyota RAV4. Confort, technologie, performance, une expérience de conduite, rien que pour vous. Toyota à Ducos et à Koney, téléphone 25 52 52, financement sur place.